RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
C'est parti pour l'after.
Jusqu'à 23h.
On vous accompagne jusqu'à 23h à la radio et à la télé sur BFM Sport. Pour nous accompagner ce soir, l'homme qui connaît plus de mots que le dico, Jonathan McCardy, bonsoir.
Salut François, salut Samy.
Samy Traoré, celui qui a fait lever le Parc des Princes avec une course qui a un peu permis à Kylian Mbappé de faire la même contre l'Argentine. C'était pas 37 km/h, tout le monde s'en souvient, c'était contre Lille avec le PSG.
Samy Radona.
C'est le ballon qui avançait tout seul, c'est pas moi.
Vous allez sur Google, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et vous regardez cette séquence. On parle avec vous de la hiérarchie des gardiens au PSG. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est plus claire maintenant? Gianluigi Buffon, en tout cas, joue les matchs de préparation. C'est
il
normal.
Prend les valises de but.
Areola n'est pas là encore. Il va rejoindre le PSG un peu plus tard. Kevin Trapp, lui, il est là. Mais il regarde tout ça du banc. On en parle à 22h. On parlera aussi de Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui n'a toujours pas de banc, justement, pour la saison à venir. On parle de lui au Mexique. Et oui, alors est-ce que ça pourrait être un nouveau pari pour lui? Pourquoi personne ne veut en Europe de Laurent Blanc? Ce sera vers 21h45. Sans oublier chaque soir le Mercato Show avec Mélanie Ferreira qui viendra faire le point sur toutes les actus chaudes du Mercato vers 22h30. Et on vous attend forcément dans l'after au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio. On lira vos messages, bien sûr. Pour commencer, messieurs, l'image du jour. Alors pour ceux qui ne nous regardent pas sur BFM Sport, on va vous la commenter. C'est évidemment une image du Tour de France, puisque vous le savez, c'était la dernière étape aujourd'hui. Le maillot jaune, Gareth Thomas, du Tour de France, s'est donc imposé. Il est fan de foot, et plus particulièrement d'un joueur,
Olivier Giroud.
Il a dit « Je supporte Arsenal » et Olivier Giroud y a joué plusieurs années. Maintenant, il est à Chelsea. C'est un grand joueur, je le respecte énormément. Je suis un grand fan. Olivier Giroud et les Français, je les ai supportés. J'étais très content de les voir remporter cette coupe.
Voilà. C'est la belle démagogie.
Comment ça, de la démagogie?
On sait que les Sky, disons que leur cote de popularité durant ce Tour de France et durant les Tours de France précédents n'est pas au beau fixe.
Ouais, je pense que ça fait bien. Un autre joueur qu'Olivier Giroud.
Oui, après, il a pris un joueur qu'il connaissait, qui joue en Angleterre, effectivement, tu vois, mais je pense que c'est bon.
Vu s'ils sont pris, comme un joueur de la vérité, simplement. Voilà.
Ça sent quand même, vu le contexte de la Sky.
On peut pas être fan d'Olivier Giroud, c'est ce que t'es en train de nous dire.
Ça fait bizarre un peu, tu vois, avec cette déclaration. Mais bien sûr qu'on peut être fan d'Olivier Giroud. Allez, c'est parti, putain. Et on mettre une pièce dans le jukebox et c'est reparti, là.
D'ailleurs, je note, pour ceux qui n'ont pas la chance de nous regarder sur BFM Sport, le magnifique, quand même, t-shirt de Samy Traoré. On peut le montrer, pour ceux qui nous regardent sur BFM Sport.
C'est paillettes encore.
Voilà, c'est l'Afrique avec des paillettes.
Ouais, un petit peu.
Non, mais c'est pas un petit peu,
c'est véridique.
C'est beaucoup.
C'est surtout véridique, ouais.
Il y a du style sur le plateau. Bon, on va parler maintenant de l'Olympique Lyonnais qui a battu Wolfsburg hier 2-1 grâce à Bertrand Traoré et Martin Terrier, une des recrues lyonnaises. Bruno Genesio n'était pas très satisfait du contenu et toi, Jonathan, tu es plutôt confiant pour l'OL. C'est ton avis tranché.
Je pense que pour être entraîneur du Paris Saint-Germain, il faut accepter de manger quelques couleuvres. Et je pense que lui, c'est pas forcément son profil.
Tu peux pas réussir. Voilà. Tu peux pas réussir. Si tu acceptes d'avaler des couleuvres, tu ne peux pas réussir.
Avec François Manardo.
Heureusement qu'il est là, François.
Alors, ton avis tranché, c'est que toi, tu es plutôt confiant pour la saison de l'OL.
Écoute, quand on entend un petit peu les échos généraux des supporters de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que c'est? C'est le mercato, il est calme, on sait pas où on va, il y a rien qui se passe pour l'instant, on a juste pris Terrier et Dubois, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, et puis Genesio et patati et patata. Bon, ces questions, on les entend, mais à mon sens, quand on regarde un petit peu l'histoire sur le moyen terme, et quand on revient à l'année dernière de l'Olympique Lyonnais, à mon sens, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pourquoi? Alors, il est vrai que le mercato, il ferait bien de s'emballer, parce que t'as quand même deux postes à Lyon qu'il faut absolument renforcer. Je parle du poste en défense centrale. Pour faire la paire avec Marcelo, c'est impératif d'aller en Ligue des Champions avec un autre défenseur expérimenté. Et un bon numéro 6. Parce que, actuellement, à ce poste-là, de pur numéro 6, surtout quand tu joues en losange, t'as que Touzard. Et Touzard, ça risque d'être, d'une part, un petit peu léger, qualitativement pour les Ligues des Champions, et quantitativement parce que c'est le seul joueur qui a ce profil-là. Donc t'as deux postes à renforcer. Mais pourquoi je dis aux Lyonnais de pas s'inquiéter? Pour l'instant, tout simplement que cette année, le marché anglais va fermer ses portes le 9 août, et qu'il va y avoir beaucoup de mouvements qui vont se débloquer après cette date-là. Donc surtout, en fait, voilà, ça, pour le mercato, pour l'instant, pas de souci à avoir. Mais surtout, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est qu'à mon sens, plus qu'une saison où il faut construire quelque chose, cette année, ça doit être la saison de la confirmation pour l'Olympique Lyonnais. L'année dernière, t'as entamé un nouveau cycle, avec le stade, et puis surtout avec la vente de cadres comme Tolisso et Lacazette. Le Gonalons aussi, capitaine historique, est parti. T'as vraiment renouvelé ton équipe. Tu as lancer un nouveau modèle de recrutement, même si tu l'avais déjà commencé auparavant, mais un nouveau modèle qui s'appuie plus sur l'extérieur, plus exogène, où tu vas prendre Bertrand Traoré, tu vas prendre Ndombele, tu vas prendre des Diop, tu vas prendre Tété, tu vas prendre des joueurs qui viennent de clubs étrangers, mais ce sont tous des joueurs jeunes qui sont arrivés. Et quand tu regardes l'âge moyen de cette équipe, tu te dis que quand même, dans cette équipe, l'année dernière, c'était des joueurs qui connaissaient pour la plupart leur première saison en Ligue 1, qui ont peu d'expérience dans les pattes, et que cette année, ils vont arriver avec quand même fort d'une saison qui a été quand même bien remplie. Donc l'année dernière, tu as eu beaucoup d'arrivées, et pire encore, je pense que en début de saison, Genesio a beaucoup tâté, je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs, et puis finalement, grâce à l'afterfoot, il m'a écouté, il a mis le 4-4 dans Los Angeles. Il a reconnu en conférence de presse, d'ailleurs, j'attends toujours Bruno, ma prime de qualification pour la Ligue des Champions. Mais il nous a écouté, il est passé en Los Angeles, et là, depuis, on a vu que, c'est le système qui a fait exploser pas mal de joueurs. Je pense à Ndombele, qui s'est métamorphosé en jouant dans ce rôle de piston gauche. Je pense à Aouar, qui a donné encore plus mesure de son incroyable talent. Donc je pense, quand on regarde ces joueurs-là, d'une part, ils ont connu une saison difficile l'année dernière, une année d'expérience en plus, mais aussi, il y a des joueurs, quand on les voit en phase de pendant ces matchs amicaux de préparation, on les reconnaît pas par rapport à l'an dernier. Bertrand Traoré, je le trouve vraiment très très fort. Alors l'année dernière, on avait vu par séquence son talent, mais là, je trouve que vraiment aligné devant dans la ligne de 2 devant dans le 4-4-2, il est très bon. Pareil, le petit Diop qui a été recruté quand même pour une belle somme d'argent au Celta Vigo, il a joué un match l'année dernière. Cette année, Genesio a parlé de lui, il a dit écoutez, on a fait une erreur avec Mamana, ça d'ailleurs c'est une grossière erreur, mais on a fait une erreur avec Mamana, on a voulu l'intégrer trop vite, avec trop de pression, ça a pas marché. Avec Diop, j'ai voulu prendre mon temps. Et quand on voit les matchs amicaux que Diop fait, c'est très prometteur aussi. Donc quand on regarde en fait ces joueurs qui sont arrivés l'année dernière et qui n'ont pas forcément eu toute une saison, quand on regarde qu'ils ont une saison en plus, et quand on regarde qu'en plus il y a encore le centre de formation qui fournit des jeunes de qualité, je pense Oussama Aouar, on est un petit peu l'étendard, mais quand on voit Maolida Ogweri ou Kakré, Maolida Ogweri qui d'ailleurs vont rentrer là de l'Euro 19 où ils ont été très bons encore, mais quand on voit ces trois jeunes qui vont intégrer la rotation, tu dis qu'il y a quand même encore pas mal de potentiel. Donc faut pas s'inquiéter, le mercato pour l'instant Dubois c'est pas mal, Martin Terrier apporte une touche en plus dans cette ligne d'attaque lyonnaise, il apporte un registre que Mariano et Depay quand ils ensemble n'ont pas, c'est-à-dire qu'il apporte un registre collectif, il fait des passes, c'est-à-dire qu'il qui n'ignore pas ses coéquipiers. Et je pense qu'il peut mettre un peu d'huile dans les rouages de ce fort potentiel offensif lyonnais. Donc je pense que la saison va être intéressante. C'est une équipe qui, à mon sens, on parle souvent de Monaco, mais a le plus fort potentiel sur le moyen terme. Et j'attends de voir, surtout parce qu'on l'a beaucoup critiqué, et c'est ma conclusion, j'attends de voir beaucoup ce que va faire Bruno Genesio. Parce que je pense que cette année, par contre, moi je suis jamais tombé dans les moqueries et tout ce bashing sur Genesio. Mais cette année, par contre, on sera encore plus dur avec lui parce qu'il a une année d'expérience en plus. Il a son système, il a des joueurs, il a le matériel. Donc faut pas faire les mêmes bêtises que l'an dernier.
Alors tu dis, il a le matériel. Moi je veux bien, mais là tu parlais des renforts
de poste.
Les renforts de poste, mais ça voudrait dire qu'il faut pas toucher à l'effectif actuel, sauf qu'on ne sait pas encore si Memphis Depay va rester, et puis il y a le cas de Nabil Fekir quand même hyper important la saison dernière.
Bien sûr,
il n'est pas encore sûr qu'il reste à l'Olympique Lyonnais, hein.
Mon avis est conditionné évidemment sur le fait que Nabil Fekir reste.
Ah,
je
oui.
pense qu'il va il y a de, alors il est vrai qu'il veut partir, mais malheureusement même s'il veut partir, je pense que ce qui s'est passé avec Liverpool va entacher sa réputation, du moins pour cet été sur
alors
le marché
des transferts.
Alors on
rappelle, il était tout proche de signer avec Liverpool, et finalement après la
volte-face.
Voilà, après le passage devant les médecins, la visite médicale, il y a eu un volte-face de la part de
Liverpool. Je vais vous donner un cas de l'année dernière. Il y a un joueur que je trouvais il y a deux ans vraiment peut-être un des plus forts potentiels en Europe, c'est Patrick Schick qui joue en Italie.
Sampdoria,
à la Samp. Ouais. Il passe sa visite médicale à la Juve. Pareil, il est recalé pour un problème, c'était au plus grave, c'est pour un problème cardiaque. Finalement, ils le prennent pas. Finalement, il va à la Roma, mais ça l'a tellement perturbé, cette histoire de transfert, pas transfert, de visite médicale, etc., qu'il a fait une saison, les trois quarts de la saison ont été loupés. Donc moi, je pense que Nabil Fekir, il a tout intérêt à rester à Lyon. Il va jouer la Ligue des Champions, et d'une part, je l'ai souvent dit, mais Nabil Fekir, sa saison dernière est très bonne, mais il sort quand même de graves périodes de blessures, il a pas pu tout rendre à son club formateur. Donc moi, je l'encourage vraiment. D'une part, parce qu'on est fan de foot et qu'on adore voir, Nabil Fekir, c'est quand même un plaisir de le voir jouer chez nous. Donc j'espère qu'il va rester. Et puis faut pas oublier que même s'ils le vendent, ils vont quand même récolter une belle somme d'argent.
Ouais. Alors après Bruno Genesio, Nabil Fekir va peut-être t'écouter, Jonathan. On verra.
Mais j'attends la prime de qualif Ligue des Champions. Je vous envoie mon IBAN après.
T'es aussi confiant que Jonathan sur cette pré-saison
c'est
lyonnaise
confiant,
en tout cas.
C'est excité.
Excité, mais en même temps on a sorti quand même de la confiance, c'est-à-dire que tu nous expliques que avec cet effectif là Lyon peut
si
voir
si Genesio fait pas de bêtises.
Non, je pense déjà qu'ils vont recruter encore au moins un ou deux joueurs. Après ouais, c'est vrai qu'ils ont ils dégagent quand même une force sur les premiers matchs amicaux qui est intéressante.
Les est-ce qu'on peut vraiment ces matchs amicaux faire une base pour juger
leur système de jeu, comment ils animent ça. On voit qu'ils sont déjà affûtés, qu'ils sont déjà prêts, qu'ils se connaissent tous très très bien. Ils ont gardé le même entraîneur depuis X temps, donc ça va jouer aussi, comme je vous disais. Le fait d'avoir eu cette saison l'année dernière avec des cas individuels où la saison a été tronchée par certains pour des blessures, par certains pour des méformes, et certains ont fait une bonne saison, tout ça mélangé cette année, je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Avec les apports de Terrier et Dubois, ça peut être quelque chose d'intéressant. Terrier, attention, moi tout le monde voit Terrier comme un remplaçant ou substitut d'eux. Moi, je le vois jouer une très belle carte dans cette année à Lyon. C'est un très bon joueur, l'année dernière, il a fait une très belle saison. Lyon fait une très bonne affaire en l'achetant. Et il en est déjà, je crois, à 3 buts sur les 4 matchs amicaux déjà. Ouais. Et c'est pas pour rien.
Et il apporte un registre différent, en fait.
Il plante. C'est un buteur. En plus, comme il joue, il est vachement collectif. Très bon joueur pour le futur.
Et en plus, ils ont anticipé ce recrutement, justement. Celui de Dubois et celui de Terrier, ce qui a permis aussi de les intégrer plus facilement.
Ça a été fait intelligemment. Ça a été fait en amont. En plus, de Français qui restent en France, tant mieux.
Sauf que Jean-Michel Aulas a parlé quand même de recrues XXL pour l'Olympique Lyonnais. Alors après, il est revenu un petit peu sur ses propos.
C'était deux mondialistes, c'est ça qu'il disait, le terme.
Voilà, il parlait de mondialistes.
De toute façon, deux mondialistes, ça reste de recrues XXL, quoi qu'il en soit pour le championnat français.
Mais pensez aussi à Yerry Mina, le Colombien, qui a brillé pendant cette compétition, pendant la Coupe du Monde, qui a marqué 3 buts.
Qui est très bon.
Et qui a été très bon, joueur du Barça. Et il dit maintenant que comme il a brillé à la Coupe du Monde, et ben c'est impossible pour l'Olympique Lyonnais de recruter un joueur comme ça. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas non plus toute la latitude pour recruter qui ils voudront.
Mais ils ont quand même de l'ambition, je pense, pour recruter ce défenseur central, parce que apparemment l'offre qu'ils ont, les approches qu'ils ont fait au Paris Saint-Germain pour Marquinhos aussi délirant que ça puisse paraître, c'est vrai. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont ils ont de l'argent à investir, tu vois. Donc franchement, cette année le marché, il est vraiment particulier parce que t'as deux facteurs, t'as la Coupe du Monde. Donc tu sais que les marchés post Coupe du Monde commencent toujours plus tard. Et j'insiste, pour l'instant tout le monde est, enfin, il y aura beaucoup de choses qui se passeront une fois que le marché anglais sera terminé. Quand le marché anglais va se fermer le 9 août, t'auras tous les plans B des clubs anglais qui n'ont pas trouvé à se rembaucher sur le marché anglais, qui pourront regarder ailleurs. T'auras, une fois que les clubs anglais auront bouclé leur recrutement, t'auras tous les joueurs qui vont se rendre compte que, eh ben, peut-être que cette année ça va être difficile de se faire une place dans le groupe, qui pourront aller voir ailleurs. Donc c'est là qu'il y aura des opportunités.
Voilà, l'Olympique Lyonnais, je vous donne rapidement le programme quand même à suivre. Benfica le 1er août. L'Inter le 4 août, la semaine prochaine, et Chelsea le 7 août, avant donc de recevoir Amiens, ça sera le dimanche 12 août, en ouverture de la Ligue 1. Lyon, donc tu les vois, parce qu'il y a quand même une donnée aussi supplémentaire par rapport à la saison dernière, c'est la Ligue des Champions.
Oui.
Et tu en as un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'avec un effectif comme ça, peut-être que c'est un peu limité pour jouer sur les deux tableaux.
Ils vont recruter tranquillement. Ils ont tout le temps.
C'est numériquement, quand tu regardes devant, ils ont de quoi faire. Sur les latéraux, numériquement, ils ont de quoi faire. Au milieu de terrain, dans les relayeurs, ils ont de quoi faire. Mais il faut vraiment qu'ils se renforcent quantitativement et qualitativement au poste de défenseur central, au poste de numéro 6, parce qu'effectivement tu vas jouer sur 4 tableaux. Après, j'insiste, c'est quand même une équipe qui est jeune, donc
c'est quoi leur objectif en Ligue des Champions? Passer ce premier tour, à mon avis, c'est pas la gagner.
Passer le premier tour, donc forcément, voilà, c'est difficile aujourd'hui.
Donc forcément, c'est leur donner à quoi, à toute cette jeunesse, parce que c'est un groupe, comme je le disais, c'est un groupe qui est vachement jeune, leur donner encore plus d'expérience au niveau européen, donc la Ligue des Champions, ce qui se fait de plus beau. Et l'année qui suit, encore une qualification pour essayer de gravir les étapes comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'ils vont faire, à mon avis.
Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Et quand on parle de Ligue des Champions, ça contient aussi là-dessus. Il faut absolument que Genesio, cette saison, fasse une saison pleine lui aussi. Qu'il soit en forme, comme dirait le coach, qu'il soit pas en méforme. Parce que l'entraîneur peut aussi être en méforme, il a raison, coach.
Bah, s'il t'écoute,
qu'il soit pas
sur
une belle saison de la... Écoute, il a mis le losange, c'est déjà bien. J'ai pas forcément aimé, d'ailleurs, le fait de voir Memphis Depay en 10. Hein. Ça, je sais pas si c'est quoi à refaire, mais... Non, mais blague à part, non, mais... Mais là, j'ai pas trop aimé, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un coach qui est contesté. On sait que du côté des supporters lyonnais, voilà, il fait pas l'unanimité. C'est compliqué. Il a fait t'as l'impression qu'il gère pas trop la situation. L'année dernière, il a donné l'impression de pas gérer forcément la situation.
C'est qu'une impression.
Un exécutant dans ses compositions d'équipe, Samy, ça se voyait. Dans ses choix sur le terrain, ça se voyait. Dans sa gestion du groupe, ça se voyait. Mais il s'est bien repris sur la deuxième partie de saison. Donc cette année, on espère qu'il va la faire de A à Z. Sur la saison, on a vu que quand même les 6 premiers mois, ce qu'il faisait, c'était moyen. Il n'était pas inspiré et qu'après, c'est bien repris.
Il faut que les moyens du bord aussi. Il faut que les mecs que tu as à disposition tirent le meilleur de eux-mêmes aussi. Si tu as les joueurs, joueurs phares qui sont pas au rendez-vous, ben forcément t'en subis les conséquences.
Après,
en tant qu'entraîneur.
Je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que moi je pense que c'est possible, c'est que les entraîneurs ils progressent aussi d'une saison à l'autre. C'est comme les joueurs. Surtout un entraîneur qui a entraîné que ce club-là.
Dans la vie, on apprend tous les jours. Eh ben, les entraîneurs, c'est pareil, ils progressent tous les jours.
Bravo. Et vous aussi, vous progressez tous les jours.
Ben, j'espère un petit peu.
Depuis le début de cet été. Merci. Thibaut nous attend au 32-16, 21h15. Oui, j'essaye. 21h15.
T'es déjà au pinacle, alors.
Non, j'ai encore des progrès à faire. 21h15 sur RMC et sur BFM Sport, si vous nous regardez. Thibaut nous attend, supporter lyonnais au 32-16. Salut Thibaut.
Bonsoir.
Salut. Alors, salut. Donc, on parlait du mercato de l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour l'instant, de ce mercato?
Pour l'instant, effectivement, Martin Terrier, c'est plutôt intéressant. Il a marqué des buts. Bon, même si pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, les matchs amicaux. Mais à part ça, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec tout le monde. Le plus important, c'est recruter un défenseur central. Parce que pour la Ligue des Champions, sinon, ça va être vraiment trop ric-rac. On a vu que l'année dernière, on est passé vraiment juste pour la troisième place. Et donc, il est vraiment important qu'on recrute un défenseur, parce que pour moi, Morel, c'est pas assez solide pour la Ligue des Champions.
Non. Mais Thibaut, par contre, quand tu dis que ça c'est fini juste pour la troisième place, moi je le verrais plutôt comme le fait que Lyon s'est qualifié en Ligue des Champions, enfin du moins a fini troisième, a fini sur le podium, alors que c'était une saison qu'on annonçait être une saison de transition après s'être séparé de la Lacazette et Tolisso.
Oui, seulement fin janvier, on était assez bien placé. Au moment où on bat le Paris Saint-Germain, on est deuxième, on est plutôt bien installé. Et derrière, on fait un mois et demi, on ne gagne pas un seul match. Donc c'est quand même assez rageant, puisqu'au final, si on avait fait rien que quelques matchs corrects, on aurait pu gérer et être dans les trois premiers plutôt tranquillement. On s'est fait un mois où on a été incapable de gagner. Et du coup, on a été obligé de se qualifier à la dernière journée.
Bah, c'est le tournant au Vélodrome.
Oui, mais en même temps, avant, on perd des matchs où justement on gagne 2-0 à Monaco. Moi, je pense que le tournant, c'est plus le match de Monaco, on gagne 2-0
et on
est repris et on perd 3-2. Et ça prouve justement que offensivement, on est bien, mais défensivement, c'est vraiment pas ça, quoi. Et en plus, on a perdu Diakabi, bon, c'est pas plus mal. Mais à l'heure actuelle, on a Diakabi en moins et on a juste Morel qui vieillit et qui pour moi est vraiment pas assez solide.
Non,
quoi. Marcelo, c'est bien.
Dans une défense à 3, pourquoi pas, mais à 2, c'est compliqué. Mais il y a surtout un point qu'il faut absolument améliorer pour Lyon, c'est que tu l'as dit Thibaut, c'est que le match de Monaco, c'est un exemple, parce que Lyon a perdu, je sais plus, je crois que c'est quasiment c'est plus de 6-7 matchs comme ça en menant 2-0. C'est pas normal. C'est une équipe qui a eu beaucoup de mal à gérer les scénarios des matchs.
Pour les supporters, c'est dur, hein.
C'est la jeunesse sans doute.
Il y a la jeunesse et
la jeunesse et la gestion de France, des fois le choix des entraîneurs, l'entraîneur était un peu douteux sur
ils avaient du mal dernière défensivement, c'est vrai.
Donc il faut
je voudrais juste relever une chose.
Oui, Thibaut.
C'est que sous Bruno Genesio, à l'époque, justement, on avait encore Tolisso, Lacazette et des joueurs un peu plus expérimentés. C'était déjà un peu comme ça. Donc
ça fait combien de temps que nous n'ont pas eu un grand et un bon défenseur central?
Oui, non, mais
c'est ça surtout le problème.
Très très grand joueur.
Comment?
Il a eu pendant une époque Samuel Umtiti, il a pas eu que des
dans la liste des pertes l'année dernière, mais j'ai oublié Umtiti en plus, imagine.
Outre Samuel, fallait l'associer avec quelqu'un.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, avec le centre de formation qu'il a et les joueurs qu'on a, on a vu avec les joueurs qui ont été vendus ces dernières années, comme ceux qui étaient déjà là l'année dernière. Moi, je pense que vu le potentiel qu'on avait, on pouvait déjà faire mieux. Et du coup, bon, Bruno Genesio, on s'est qualifié en Ligue des Champions, c'est ce que je voulais, donc pas de souci. Mais au final, effectivement, pour cette année, il a vraiment intérêt à être à la hauteur.
Il est pas
derrière
mal, Marcelo,
lui, mais
quoi.
Il va falloir qu'il.
Oui, mais il faut l'associer à quelqu'un.
Merci Thibaut, merci
salut,
beaucoup.
Salut,
merci
bonne
d'être passé par l'after.
Salut. Leur erreur, c'est quand même la gestion de Mamana, quoi. Quand même. Mamana, il est jeune.
Parti au Zénith Saint-Pétersbourg.
Oui, il arrive, il est jeune. On sait qu'il a une histoire personnelle compliquée. On l'a raconté mille et une fois dans l'after. Mais en gros, ses parents il perd ses parents à 10 ans. Il grandit au sein de son club à River Plate. C'est son premier voyage en Europe. Fallait lui laisser un peu de temps. Parce que c'est un joueur qui a amené à devenir un super joueur. On a vu au Zénith, il s'est blessé sur la fin, mais il aurait sûrement fait la Coupe du Monde. Il a fait une belle saison. Donc c'est là, tu l'aurais. Tu ferais une charnière Marcelo Mamana avec Mamana avec plus d'expérience, avec l'expérience en plus. C'est quand même dommage. Je pense que tu peux avoir des regrets.
Ouais. Ouais, mais de toute façon, les regrets. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre l'année prochaine, absolument.
Ouais, c'est clair.
Tu vas pas vivre avec
t'as
tes regrets.
T'as une idée, toi,
mais c'est pas facile, justement, de trouver un bon défenseur central. Actuellement,
mais t'as une idée, toi?
C'est ton poste, comme ça.
Et pas cher, forcément.
Pas cher, je sais pas. Ils ont quand même essayé Marquinhos.
Ouais, mais ils ont essayé, on l'a dit,
Marquinhos,
Mina.
Non,
mais ça veut dire qu'ils ont les sous, tu vois, au moins.
Marquinhos.
Qu'ils ont des sous, ça veut dire qu'ils ont quand même des sous.
Bon, on va essayer de trouver une idée. Hein, dans
essayer de faire revenir Lovren.
Ah, Lovren, ouais, là c'est très cher.
Bah, il va pas jouer l'année prochaine.
Avec son salaire à Liverpool.
Là, c'est... Ouais, ils ont pas. Je crois pas qu'ils aient recruté en centrale à hein, Liverpool encore. Ils ont Van Dijk et ils ont pas recruté.
Il y a Matip qui est revenu aussi.
Ouais. Mmh. Il va être dans la rotation, ouais.
Bon, ah ouais, on va réfléchir.
On va demander, qui nous aide,
on va demander aussi à Dylan qui nous attend au 32-16, supporter lyonnais. Salut Dylan.
Oui, salut.
Merci
salut,
d'être dans l'after.
Salut.
Alors, toi, tu es moins confiant, en tout cas moins excité peut-être par le mercato lyonnais que ne l'est Jonathan depuis le début de l'after.
Ah bah parce qu'il n'y a pas de mercato, donc il n'y a pas de raison d'être excité, parce que bon, Dubois et Terrier, c'est bien gentil, mais je veux dire, pour la Ligue des Champions, ça va pas suffire. Là, on en est à un point, on a trois arrière-droits, et on n'a pas de défenseur central de haut niveau.
C'est
très mauvais. Marcelo, c'est moyen.
Oh, t'es dur,
c'est pas très mauvais quand même, Morel, quand même.
Non, Dylan, t'es dur sur Marcelo.
C'est mauvais, non, c'est Morel pour la Ligue 1, pour jouer contre Amiens ou Guingamp, ça va très bien. Mais dès que le niveau s'élève, on voit bien qu'il est perdu, le pauvre. Après, voilà, moi, juste que le joueur, hein, je parle pas du reste.
Oh, bien sûr, on est là pour juger ses performances sportives.
Dylan, Marcelo, t'es un peu dur quand tu dis c'est moyen.
Ah, mais Marcelo, c'est le meilleur des deux, mais par contre, je suis d'accord avec toi, ce que tu disais juste avant, l'erreur gravissime, c'est d'avoir vendu Mamana. Ça, moi, je suis déçu. Depuis qu'il est parti, c'était le meilleur défenseur central qu'on ait eu depuis longtemps. Ça sentait qu'il était bon, qu'on aurait pu lui laisser sa chance. Mais non, deux trois matchs ratés, on le virait directement. Mais ça, c'est la gestion de notre entraîneur qui aime pas trop les joueurs techniques.
Mais t'as vu qu'il en a parlé, Dylan, de cette gestion. Il a reconnu avoir fait une erreur. Hein.
Ah oui, mais bon, voilà, après, au bout de, c'est facile de dire après, oui, j'ai fait une erreur, et puis c'est Ren Morel et Diakedi. C'est-à-dire, je sais pas, le mieux, c'est de pas faire d'erreur. C'est quand même pas mal.
Donc, tu fais partie de ces supporters lyonnais, qui ne sont pas spécialement satisfaits que Bruno Genesio soit encore à la tête de l'OL.
Ah, moi, je suis dépité qu'ils soient encore là, moi.
Ah oui?
Tout simplement. Je pense.
Pourtant, il a fait le boulot, quand même. Il a amené Lyon en Ligue des Champions.
Ça n'engage que moi. Non, mais finir en Ligue des Champions avec cet effectif-là dans ce championnat-là, c'est le minimum.
Bah, derrière le PSG, Monaco. Hein.
Pourquoi c'est le minimum, quand même?
Parce que t'as vu l'effectif qu'il y a.
Ils ont fini devant Marseille, quand même.
Devant Marseille, derrière le PSG, Monaco.
Ils ont un effectif qui est moins bon que Marseille.
Non, ils ont un effectif Captain Meyer.
Il faut juger l'ensemble. Déjà, on se fait chier depuis 2 ans en regardant les matchs de Lyon. Il y a le fait qu'on avait la possibilité de jouer une finale de Coupe d'Europe chez nous. On l'a pas fait. Vers Marseille, ils sont pas meilleurs que nous. On finit devant eux sur la saison, mais eux, ils vont en finale et pas nous, parce qu'on s'est
C'est deux compétitions, différentes, c'est pas pareil.
Eh oui, mais l'année d'avant, on se fait humilier par l'Ajax. On se fait humilier par l'Ajax Amsterdam. On prend 4-1 là-bas, c'est une humiliation.
Dylan, toi, t'aimerais voir arriver qui en défense centrale? Est-ce que t'as des idées, de nom?
Alors après, des idées, c'est toujours compliqué de trouver un défenseur, surtout que moi, pour moi, il en faudrait deux.
Oui, c'est vrai.
Après,
le titulaire que t'aimerais voir arriver. Faut un titulaire et un remplaçant.
Donc, on va dire des joueurs plausibles.
Ouais.
Arrivés plausibles.
Oui, pas Marquinhos. Ils ont essayé, hein. Oui, mais bon, c'est pas possible.
Moi, il y avait une rumeur qui était sortie, c'était au début de l'été, qui me plaisait pas mal, c'était Manolas, de la Roma.
Ouais,
c'est costaud, c'est pas mal.
Ils en parlaient, ça me plaisait bien. Je veux dire, la Roma, c'est un grand club, mais c'est pas non plus un top club européen. Donc, c'était accessible. Après, là, j'ai vu qu'il parlait d'un joueur de l'Espagnol, David Lopez. Mmh. Bon, ouais, moi, je le connais pas. Après, il parle de 30 millions. Ça me paraît beaucoup pour quelqu'un qui joue à l'Espagnol, justement. Après, voilà, il parlait d'un Portugais aussi, qui joue à Benfica, Ruben Dias. De ce que j'en ai entendu, c'est pas mal. Mais après, voilà, c'est toujours des pistes. Et après, on va se retrouver avec, on va se retrouver avec n'importe qui. On va se retrouver avec Marcelo Morel, titulaire.
Dylan, fais-moi confiance. Cette année, le marché, je te l'expliquais. Le marché cette année, il est bizarre. Et c'est normal avec le nouveau marché anglais. Ça va se débloquer. Ils vont recruter, c'est sûr.
Ben, j'espère. Mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense qu'on va peut-être tester Tété en défense centrale.
C'est une possibilité, c'est vrai qu'il a les qualités, je pense, pour jouer aussi, pour dépanner en défense centrale, mais ça doit être une solution de dépannage, et ça doit être, tu vois, quand tu dis qu'il en faut deux, et ben, à la rigueur, si tu prends un très bon, du très lourd pour accompagner Marcelo, à la rigueur, je peux considérer Tété comme une solution de dépannage,
mais un peu plus, quoi.
Ouais. Ah, mais... ça, oui, il faut prendre un très gros, puis il faut frapper, on joue la Ligue des Champions, on aimerait bien ne pas faire la figuration, donc il faut frapper un grand coup. C'est pas avec Terrier et Dubois qu'on va impressionner qui que ce soit.
Je te sens un petit peu déprimé quand même, hein.
Je dis là.
Mais ne t'inquiète pas, le mercato est encore long.
J'espère, parce que là, on attend tous les jours, en plus, on voit rien venir.
Mais il faut écouter l'after tous les jours, il y aura une bonne nouvelle.
Et Dylan, tu sais, pour Genesio, franchement, quand on, après le début de la saison dernière, moi je disais bon ok, il faut que ça s'arrête, mais le fait qu'il l'ait innové tactiquement, même s'il nous a écouté, mais qu'il ait changé son équipe, qu'il ait réussi à retrouver un certain équilibre, et ben j'ai envie de lui laisser encore le bénéfice du doute et de voir qu'il confirme ses progrès, même si l'année dernière c'était pas parfait, effectivement.
Ça fait trois ans qu'il est là, il y a pas de problème.
Tu peux progresser toujours, Samy l'a dit, on progresse à tout âge.
On progresse toujours.
Eh oui. Alors, Samy, le philosophe de l'after.
C'est la vérité. Mais oui. À la base, et lui, je suis pas sûr qu'il en a.
De toute manière, c'est lui qui va entraîner la saison dernière. Donc maintenant, il y a même plus de débat à avoir, quoi.
Merci, Dylan.
D'accord. Bon, merci.
Merci beaucoup et on se retrouvera dans l'after pour parler du mercato lyonnais, c'est sûr. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Et à bientôt, 32-16.
Ciao, ciao.
21h25 sur RMC, sur BFM Sport. On reste encore ensemble, évidemment. On vous accompagne jusqu'à 23h dans un instant. Restez avec nous. La vie tranchée de Samy, c'est sur les Girondins de Bordeaux. Là, on verra si, on rappelle que les Girondins sont en passe d'être rachetés par des investisseurs américains. Est-ce que c'est une ambition réaliste de viser la Ligue des Champions? La réponse de Samy Traoré, c'est dans un instant. On vous attend en 32-16. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, François Pinet.
Retour de l'after, c'est jusqu'à 23h. On est toujours avec Samy Traoré et Jonathan Macardy. Vous êtes en forme, vous avez lancé un appel, un défenseur pour l'Olympique Lyonnais. On a plein de réponses sur le hashtag RMC Live. Petit Prince du Parc qui nous fait une liste hein, pour les supporters lyonnais. Mangala, Sako, Miranda, Bartra, Boyata, Manolas, on en a parlé de Manolas. Diego Carlos du FC Nantes pour Lyon, ça pourrait être pas mal, nous dit Simba.
Eh ben Sako, ce serait pas mal hein, pour lui, pour se relancer, enfin pour regagner de la visibilité en France et tout.
Ouais, à partir du championnat d'Angleterre, c'est dur.
C'est dur, ouais, je sais, mais faudra qu'il fasse les deux, fasse un effort financier.
Pourquoi pas Marc Bartra encore, nous dit Geek Fouteux. Et puis sur le Direct Studio, un bon défenseur pour Lyon, je propose Zuma ou Mangala, nous dit Salim, Direct Studio sur l'appli RMC.
Zuma, ça m'étonnerait qu'il veuille aller jouer à Lyon.
Il est à Stoke City actuellement.
Ça m'étonnerait qu'il veuille aller jouer à Lyon quand même.
Là, tu pensais que Marquinhos pouvait aller jouer à Lyon, mais Zuma, ça m'étonnerait qu'il voudrait jouer à Lyon.
J'ai jamais dit ça.
J'ai dit que Lyon s'était renseigné auprès de Paris pour Marquinhos.
Et ils ont tout de suite dit non.
Bah, bien sûr
qu'ils ont tout de suite
dit non. C'est pourquoi je l'ai dit,
c'est parce que ça prouve qu'ils ont quand même, je pense, ils ont quand même de l'argent à mettre. Ouais. Si je vais pas te renseigner sur Marquinhos, si t'as
le problème, c'est que dans une liste pour le recrutement, t'as des noms top 1, top 2, top 3, et puis quand tu descends, au fur et à mesure que le mercato passe, bah, tu vas chercher un peu plus bas dans la liste.
C'est vrai. Ah, mais Sako, c'est vrai que ça serait pas mal pour lui, hein.
Mamadou Sako. Voilà une idée. Retour donc de l'after dans 15 minutes. Attention, on parle de Laurent Blanc. Pourquoi personne ne veut de l'ancien coach du Paris Saint-Germain et de Bordeaux? Et justement, Bordeaux, on en parle maintenant. Les Girondins qui vont être vendus à un fonds d'investissement américain pour 100 millions d'euros. Hein, ça inclut les 40 millions de la vente de Malcolm à Barcelone. Et Samy, ça t'a inspiré, toi, un avis tranché?
Ça a surpris Samy quand j'ai appris que Umtiti c'était le beau gosse son nom.
Pourquoi ça t'a surpris Samy?
Parce qu'il se fout de lui. Non, tu penses pas?
Ah, mais j'en sais rien.
Bah, pourquoi alors?
Je crois que le plus drôle dans ce sens, c'est le ton sur lequel tu le dis tout
cas. Et puis c'est la tête de Samy Traoré pour ceux qui nous regardent.
Là, en fait, je crois que j'ai vu un reportage la dernière fois sur les Bleus et en fait, je sais pas s'il appelle pas le beau gosse parce qu'ils avaient une danse et en dansant, ils faisaient ben, le beau gosse en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'il le surnomme le beau gosse,
ouais,
peut-être pas
ça doit être ça.
Par son faciès.
Bon. Vas-y Samy,
ok beau gosse.
Parle-nous des Girondins de Bordeaux.
Non, ah ouais, c'est la grande question du jour. Fonds d'investissement américain, alors ça reste vaste, on connaît pas spécialement leur ambition, s'ils connaissent le football. Donc on sait pas s'ils sont venus racheter spécialement les Girondins de Bordeaux ou le vin qui les entoure. Donc je me posais la question, à savoir si le champion de Project Marseille les avait pas un peu inspirés, les Américains. Après, je pense pas du tout du côté de Bordeaux, parce que par rapport à Marseille, il y avait déjà un socle, comme on en parlait avec Joe, il y avait déjà un socle de joueurs, il y avait déjà
Gomis.
Il y avait déjà Gomis, il y avait déjà Tovin, il y avait déjà Mandanda.
Non, il était plus.
Il était pas là encore. Donc il y avait déjà un socle de joueurs qui était déjà imprégné à ce club de Marseille, et quand on est imprégné au club de Marseille, c'est autre chose à mon avis que l'amour qu'on donne pour le maillot bordelais. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Après, les Américains, comme Marc Court, je ne sais pas aussi s'ils connaissaient spécialement le football, mais l'ambiance marseillaise et le peuple marseillais leur ont fait découvrir ce que c'était le football. Donc c'est un environnement totalement différent. Côté bordelais, je pense pas qu'ils aient l'effectif pour aller chercher déjà une Ligue des Champions. Après, j'ai entendu que ces Américains voulaient mettre 80 millions sur 3 ans.
C'est ça, 80 millions d'euros pour développer le
club. Ça me paraît peu.
Je m'étonne. Ça fait 27 millions d'euros par an.
Ouais, ça me paraît effectivement peu pour construire un groupe capable de ne serait-ce que passer le premier tour de la Ligue des Champions.
Non, juste de se qualifier même.
Juste de se qualifier. Donc je vois mal cet effectif actuel avec de bons renforts, passer devant le Paris Saint-Germain.
Et surtout que t'as aucun potentiel de remonte.
Passer devant Monaco. Passer devant Lyon. Passer devant Marseille.
C'est beaucoup. Ouais.
Ça me fait beaucoup. Ça me paraît effectivement beaucoup pour les ambitions des nouveaux propriétaires bordelais.
Ouais. Alors, tu parlais justement de prix annoncés, c'est Nicolas Taverneau, hein, le président d'M6 et propriétaire des Girondins, encore pour quelques jours sans doute, qui a parlé des 80 millions d'euros que doivent apporter sur 3 saisons ce fonds d'investissement américain, sachant que Marseille effectivement a déboursé 200 millions hein, depuis son arrivée il y a un an et demi.
Ouais, même plus, je crois. Je crois que tu fais le compte de ce qu'a mis Marseille, en joueur,
octobre 2016.
Infrastructure, les rachats de terrain, etc. Je crois que c'est même, t'approches des 300.
Je pense qu'à Bordeaux, ils ont pas besoin spécialement de rachats de terrain ou tout. C'est plus pour dédouaner de la ville, à mon avis.
Sauf que Bordeaux, avant l'arrivée de ses investisseurs, devait vendre. Oui. Pour recruter. Là, c'est-à-dire que c'est 80 millions d'euros sans forcément avoir besoin de vendre.
Ben, déjà, ils ont vendu Malcolm pour 40 millions.
Ouais.
Donc déjà, ça va leur faire une petite plus-value. Mais ça me paraît vraiment compliqué. Hein.
Ouais,
j'ai vu jouer un petit peu contre c'est qui Ventspils.
Ventspils, ouais, exactement.
Contre
les Lettons. Ouais.
En Europa League, c'est ça va être difficile.
Le truc, c'est que quand tu rachètes un club si tard comme ça, on l'a vu quand Macourt est arrivé à Marseille, c'était encore plus tard parce que la saison avait déjà commencé. Il faut faire une chose, c'est frapper fort tout de suite. Macourt, quand il arrive, il débarque Passy, il amène Rudy Garcia. Le premier mercato, il prend Dimitri Payet, il prend Patrice Evra. Il y a quand même des investissements qui sont faits. Donc tu frappes quand même déjà fort. Après, Samy a totalement raison. La différence entre Bordeaux et Marseille, si on doit faire le parallèle dans ces rachats tardifs, c'est que Marseille avait déjà un socle de joueurs qui était intéressant. Avait des joueurs notamment qui avaient un potentiel de revanche. Je pense à Florent Thauvin par exemple. Donc là, Bordeaux, même s'il y a des jeunes qui sont très enthousiasmants pendant cette préparation, Koundé, Youssouf, Tchouameni, etc. Tu sais pas si ça sera vraiment, ça deviendra vraiment des valeurs marchandes importantes. Il y a Sabali, qui peut rapporter un peu d'argent, mais c'est tout quand tu regardes comme ça. Donc, déjà, ça me laisse sceptique. La deuxième chose, c'est que 80 millions, tu l'as dit, c'est 27 par saison. C'est quand même, quand on voit l'état du marché actuel, c'est quand même très, très, très peu pour faire une équipe qui soit compétitive.
Tu peux prendre un joueur, hein. 27 millions d'euros, et
c'est ça.
Et sinon, t'en prends 3 au moindre coût, hein. Mais
80,
ça va être difficile.
Il faudrait par saison pour faire une sorte de logique monégasque, tu sais, des paris où tu achètes pas mal de joueurs et tu les développes.
80 par saison.
Ouais. Exactement. Et après, la chance qu'ils peuvent avoir, j'insiste là-dessus parce que je vais vous saouler avec ça, mais c'est qu'ils arrivent tard. Mais encore une fois, cette année, le mercato, il est bizarre. Enfin, il a une structure qui est différente, donc ce sera pas non plus trop tard si ça signe demain ou après-demain pour commencer à chercher des joueurs.
Mais pour amener des top joueurs, tu fais comment? Tu vas
des top joueurs à Bordeaux, Samy.
C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Donc forcément, il va falloir mettre la main à la poche. En leur vendant le projet UEFA. Si tu peux pas mettre de grosses sommes, ils vont jamais venir.
Non, mais je pense, de toute manière, Samy, dans l'état actuel des top joueurs,
ne viennent pas à Bordeaux.
C'est triste.
L'équipe de l'After semble sceptique, hein, sur le projet américain de Bordeaux. C'est pas le cas, évidemment, de Nicolas Taverneau, puisqu'il a vendu le club à ce fonds d'investissement.
Non, c'est plutôt les supporters.
On va écouter justement le président de M6 et donc, dirigeant des Girondins de Bordeaux.
C'est une décision qui était difficile à prendre parce qu'on est très attaché à ce club qu'on gère depuis 19 ans, donc avec quand même un beau parcours. On a décidé donc de finalement d'entrer en négociation en vue d'une cession à des Américains. Pourquoi ? Mais parce que le budget qu'on a loué au club ne lui permet pas de dépasser la cinquième place, puisqu'il y a les, depuis le football, depuis qu'on est arrivé, le football a changé, l'arrivée des Qataris. Donc il y a quatre clubs qui sont difficilement atteignables, Paris, Lyon, Monaco, Marseille, sauf accident. Et donc on a trouvé des Américains qui sont prêts à prendre plus de risques, donc des investissements plus importants.
Voilà, je crois qu'il a tout dit. Effectivement, les clubs français, on le sait tous, les clubs de Ligue 1 sont mis à la vente. Et il faut absolument qu'ils trouvent tous des investisseurs pour survivre même. Bien Donc sûr. C'est le cas aussi des Girondins de Bordeaux. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de cet argent. Et ça va peut-être apporter quelque chose en plus. On parle pas forcément de la Ligue des Champions.
Après,
ça, en tout cas, pas tout de suite.
François, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. C'est vrai que l'argent, c'est une condition nécessaire, mais c'est pas une condition qui est suffisante.
Regarde, oui, mais comme Nancy se mettait plus d'argent dans les jeux de Bordeaux.
Regarde ce que fait Nice. Je pense qu'en termes de budget, c'est...
Ouais, mais ils ont des investisseurs. Hein,
ils ont des investisseurs, mais je pense que ça, c'est pas non plus, tu vois, par rapport à M6, je pense pas qu'ils aient un budget qui soit beaucoup plus important que Bordeaux.
Ils ont combien au niveau du budget?
Nos auditeurs vont nous le dire, mais je pense que c'est pas beaucoup plus important que Bordeaux. Mais ce qui m'intéresse quand je regarde Nice, c'est qu'ils ont, ben, en termes de résultats moyens, je pense qu'ils ont la meilleure cellule de recrutement de France depuis 5-6 ans. Quand tu vois les coups qu'ils ont fait, les Dalbert, même avant Zvitanić et compagnie, c'est à chaque fois, ils visent juste sur des joueurs qui sont méconnus, qui amènent, qui explosent en Ligue 1 et qui leur apportent une plus-value sportif tout de suite et une plus-value financière après. Et je pense que Bordeaux, c'est un club qui depuis des années est mal organisé. C'est un club qui, en termes au niveau de la cellule de recrutement, c'est illisible, c'est totalement illisible. Je sais que Gourvenec avait voulu mettre de l'ordre là-dedans, mais c'était un petit peu trop compliqué. Donc je pense que la première tâche de ces Américains-là, s'ils veulent vraiment faire avec un budget restreint, ça va vraiment être d'abord de réorganiser le club d'une manière professionnelle, comme on entend le mot professionnel, en 2018, dans ce football qui est le nôtre aujourd'hui.
Et on verra, effectivement, c'est 45 millions le budget de l'OGC Nice.
Et Bordeaux, ils ont plus, alors.
Bordeaux est plus, a plus de budget, effectivement. Mais Bordeaux termine sixième, quand même, et joue la Ligue Europa. En tout cas, joue les qualifications de la Ligue Europa. D'ailleurs, ça sera jeudi prochain, le match retour.
C'est extraordinaire pour eux. Hein.
Contre les Lettons de Ventspils. Max est au 32-16 avec nous à 21h38 sur RMC dans l'After. Salut Max.
Salut l'équipe. Bonjour.
Salut Max.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Supporter bordelais.
Est-ce que
alors
t'es
toi,
libre?
Est-ce que t'es content déjà?
Est-ce que t'es libre, Max?
Pardon. Bien. Bon,
allez, désolé.
Non. Déjà, tu peux répondre à la question.
Ouais, justement. Alors, la question, c'est je suis libre de parler.
Oui. Tu es libre de parler de tout ce que tu veux et surtout des Girondins de Bordeaux. Est-ce que t'es content de l'arrivée des investisseurs américains dans ton club?
Ça va faire un changement. Ça va faire un changement. Je pense que M6 a tout à la fin été très honnête en disant que ils voulaient pas plus investir et prendre de risques. Je pense que malheureusement ils le font au mauvais moment avec l'augmentation des droits de la Ligue 1, parce que c'est un peu le jackpot pour les Américains, qui je pense vont très rapidement, je dirais, rentabiliser leur investissement. Il y a une chose qui est très vraie qu'a dit Jonathan McCarty, c'est qu'il faut absolument une réorganisation professionnelle au niveau du club. Bordeaux, si vous voulez, ça reste un club qui finit tous les ans entre la troisième et la neuvième place, sauf catastrophe industrielle.
Et sauf les années en neuf, ils sont toujours champions.
Voilà, exactement. Tous les 10 ans, on est champion. Donc j'ai envie de vous dire, pas de souci pour cette année. On va être champion. Voilà, ça va aller. Non, mais par contre, on n'arrive pas à reproduire avec les autres clubs de mettre les anciens à des postes stratégiques. Je pense que il aurait cramé, même si j'ai eu beaucoup d'affection pour lui. Il était un très bon gardien, mais pas très bon en termes de recrutement ou de cellule dirigeante, dans la cellule dirigeante. On verra. Je pense que le problème à Bordeaux, c'est pas l'équipe, c'est pas les joueurs, c'est tout ce qu'il y a autour. On aura l'équipe qu'on aura, même avec ou sans Malcolm. On aura les joueurs qu'on aura, on fera la saison qu'on aura. Par contre, c'est en termes d'investissement, de direction, etc., qu'il faut vraiment changer les choses. Et c'est ça, en fait, qui est le plus désespérant dans l'équipe de Bordeaux, c'est que ça peut être un super club. On a des super infrastructures dont on n'est pas propriétaire, contrairement à ce que disait Samy, mais il peut pas tout savoir. Le centre d'entraînement, on le loue au Hayan. Le stade, on le loue à la métropole Bordeaux. Donc, si vous voulez, les Américains, ils viennent pas pour devenir, entre guillemets, rentiers de bâtiments ou de terrains, quoi. Eux, ils viennent apporter ce qu'ils ont déjà fait avec Los Angeles Galaxy et avec les Lakers, c'est-à-dire vraiment mettre leur savoir-faire dans le business, sur la billetterie, sur
marketing,
les produits
dérivés, aussi.
Ouais, exactement, t'as raison, sur le marketing. Donc, si la question est que va faire Bordeaux l'année prochaine, à la limite, on s'en fout, on verra. C'est ça le supporter bordelais aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de grosse attente, et je pense que c'est une erreur de comparer Bordeaux à Marseille, si je peux me permettre.
On compare juste dans la revente.
C'était juste que tardif, c'est une revente qui intervenait tard, en fait, par rapport au début de la saison.
Et puis ce sont des Américains, c'est aussi pour ça qu'on en a parlé.
Les Américains, s'ils achètent même tard, je pense qu'il y a un intérêt pour eux. Mais non, c'est pas une critique quand je dis qu'il ne faut pas comparer Bordeaux et Marseille. Je pense que même avec les Américains, Marseille continuera à perdre ou ne pas gagner à Galice. Ça, c'est une chose certaine. Après, ce que Bordeaux fera personnellement sur la saison 2018-2019.
Tu trouves pas ça navrant quand même pour un supporter bordelais de s'avouer à mi-vaincu déjà avant le début du championnat?
Je m'avoue pas vaincu.
Tu me dis on aura l'équipe qu'on aura. Ça veut dire que tu pars un peu défaitiste, tu vois.
Ou alors peut-être que Max, tu regardes peut-être sur le moyen terme.
Ouais, exactement. Exactement, je suis pas de ceux qui jugent à la première journée. Faut se souvenir que Marseille, après la défaite 6-1 contre Monaco et 3-1 à domicile contre Rennes, on enterrait McCourt et toute sa politique.
Le 5-1 au Vélodrome, quand il rachète l'intersaison, la saison, il rachète le club. Rappelle-toi.
Mais moi, ça me fait mal quand même pour un ancien joueur de voir Bordeaux végéter comme ça, sixième place. Moi, j'aimerais bien qu'ils se battent pour la Ligue des Champions. J'ai connu Chavandelmas, c'était le feu.
Mais c'est un beau public.
Une équipe de dingue. Quand tu te déplaçais à Bordeaux, tu soulignais quand même le déplacement à Bordeaux parce que c'était toujours intéressant d'aller à Bordeaux. Mais maintenant, c'est navrant quand même.
Samy, est-ce que je peux te rappeler une chose? C'est que, par exemple, en l'équipe de Lyon, qui est une superbe équipe. La dernière équipe entre Bordeaux et Lyon à avoir gagné le championnat de France, c'est Bordeaux. La dernière équipe à avoir gagné la Coupe de France entre Lyon et Bordeaux, c'est Bordeaux. La dernière équipe à avoir gagné la Coupe de la Ligue entre Lyon et Bordeaux, c'est Bordeaux. Entre guillemets, en termes de palmarès, ceux qui sont plus, entre guillemets, en recherche de titres, c'est Lyon, par exemple. Alors, c'est pas ni Marseille ni Paris, mais je pense que sur les 20 dernières années, avec deux titres de champion, Coupe de France, Coupe de Ligue, etc., on n'a pas jamais été menacé par la Ligue 2, sauf peut-être avant l'intersaison cette année.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que Bordeaux, ça a toujours été un club phare du championnat. C'est ça que je suis en train de te dire. Ça a toujours battu pour de la première à la quatrième, cinquième place.
Depuis le titre, tu ronronnes. Tu ronronnes et c'est, en fait, tu tombes dans un espèce d'ennui, d'une lassitude, où il se passe pas grand-chose.
C'est ça le problème.
Et t'as besoin d'être réveillé, je pense.
Faut crier un bon coup, là, les Bordelais. J'espère que le changement, il va vous faire du bien.
Ben, j'espère aussi, mais le changement, c'est là. Je pense que les Américains, ils vont apporter leur savoir-faire en termes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, le football, faut pas se le cacher. C'est du marketing, c'est de la vente de billets.
Regarde, et on ne sait pas encore ce que vont faire les Américains. Remplacer aussi le staff, ils vont peut-être changer des choses.
Regardez ce qu'a fait McCourt à Marseille.
Voilà. Il a su s'entourer aussi de gens qui connaissaient le football.
Du point de vue marketing, c'est autre chose. On est passé dans une autre dimension.
D'ailleurs, au passage, McCourt, il est quand même arrivé avec des casseroles au cul, c'est-à-dire avec une équipe de Formule 1.
C'est de baseball.
Il est arrivé avec des fonds aussi, c'est pas grave.
Tu confonds avec Gérard Lopez.
Merci
beaucoup Max d'être passé par RMC. On espère que toi aussi.
Je peux faire un petit coucou juste à Pierre, à Greg et à Yanis qui vous écoutent régulièrement et à ma femme qui est Letton et de Ben Spils.
Ça ne devait pas être facile à la maison.
Ma femme est de Ben Spils, donc je sais exactement où vont jouer les Girondins la semaine dernière.
D'accord, jeudi prochain ça va être compliqué alors. Il va falloir. Non, c'est bon.
Ça sera l'hôtel du cul tourné.
On va éliminer. Bon, bonne soirée à vous les
gars. Merci Max, à bientôt. Reste libre. Sur RMC. Allez, on reste, vous restez évidemment dans l'after. Vous pouvez nous joindre, comme l'a fait Max, au 3216, nous écrire sur le hashtag RMC Live ou sur l'appli RMC Direct Studio. Dans un instant, on se pose cette question. Pourquoi personne ne veut de Laurent Blanc? L'ancien coach du PSG est annoncé au Mexique par la presse locale. On en parle dans un instant dans l'after. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, François Pinet.
L'after qui continue jusqu'à 23h, toujours avec Jonathan McCarty et sa magnifique chemise.
Ouais,
elle est merveilleuse pour ceux qui ne nous voient pas sur BFM Sport. Elle est très ouverte.
Pardon, je la ferme.
Non, mais c'est le style Jonathan McCarty.
C'est le style El Chapeau.
Et puis le style Samy Traoré, qui est également avec nous. Samy, magnifique, avec une veste en jean.
Dans le streetwear.
Un peu streetwear. Magnifique. L'Afrique, donc, en diamant. C'est un peu ça. C'est du vrai diamant.
C'est assorti à la bague.
C'est défaut.
C'est défaut diamant. Assorti à la bague, bien sûr.
La bague, elle est en diamant, par contre.
Voilà. À 22h, on se demandera comment le PSG doit gérer ses gardiens. Pour l'instant, ils sont trois avec l'arrivée de Buffon. Il y a Trapp et Areola qui sont encore encore là. Qui est en trop? Faut-il une hiérarchie claire? Vous pourrez nous appeler à partir de 22h sur RMC. Mais juste avant, il y a cette rumeur qui nous a surpris. Un journal mexicain qui s'appelle La Afición, qui a annoncé que Laurent Blanc serait ciblé par les Tigres de Monterrey, le club où évolue André-Pierre Gignac, qui pourrait perdre son coach d'ailleurs, ce club, annoncé à la tête de la sélection mexicaine. Laurent Blanc est sans club depuis son départ du PSG en juin 2016. Deux saisons sans club, alors qu'on a parlé de lui un peu partout. On avait parlé de lui à l'Inter Milan, à Chelsea ou même à Lyon. Alors dans le Parisien, Blanc avait expliqué qu'il y a, il y a quelques jours qu'il espérait un poste, mais pas forcément à la reprise. Il voit que les portes se ferment, donc peut-être qu'il sera obligé d'aller au Mexique, même si on a du mal à croire à cette rumeur. Comment ça se fait, messieurs, qu'un entraîneur titré 4 fois en championnat de France, 1 fois avec Bordeaux, 3 fois avec le PSG, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, qui a une expérience quand même en sélection avec l'équipe de France, n'attire personne, ou en tout cas ne trouve pas de point de chute depuis 2 ans.
Samy.
Non, après je pense
Jonathan,
que...
il sait pas, donc il attend.
Si, mais...
Non, après je pense qu'une fois qu'il a eu le licenciement du Paris Saint-Germain, il fallait un laps de temps déjà pour...
Ouais.
Pour décompresser un peu, prendre un peu de vacances.
Et puis il avait les moyens de prendre de belles vacances aussi.
En profiter. Bah
ouais, après, tant mieux pour lui. Hein.
Non,
tant mieux
sûr.
Pour lui, si à chaque personne qui avait été virée, ils avaient pris un gros chèque comme ça, tant mieux pour eux. Mais c'est pas le cas. Bon bref. Mais après, je pense que il attend un projet solide aussi. Il veut pas s'aventurer n'importe où. Il attend certaines.
Oui, mais à force d'attendre, il a rien du tout au final.
À force d'attendre, il attendra.
Peut-être parce qu'il visait trop.
Ça c'est son avis personnel. Après je pense qu'il a changé d'agent aussi, c'est pas pour rien. Donc non après ça va venir forcément. Il va y avoir des licenciements incessamment sous peu aussi. Il va y avoir des coachs qui vont pas passer l'hiver, et peut-être ça va lui ouvrir quelques portes et une bonne opportunité. Les malheurs des uns font le bonheur des autres, hein, c'est comme ça.
Rolando nous dit sur l'appli RMC Direct Studio: le problème de Laurent Blanc est simple, c'est comme les joueurs du PSG qui galèrent à trouver un club car ils sont surpayés, c'est pareil pour Blanc, il a l'air aussi difficile. Notre ami Bordelais.
Alors, déjà,
notre ami Bordelais,
on va préciser quelque chose.
Loin dans ce propos.
Ouais, non mais.
C'est que j'ai senti un peu de mépris quand tu parlais des Tigres du Mexique. Je pense que c'est un super challenge.
C'est pas, oui,
d'aller au Mexique,
on est d'accord.
Dans des stades qui sont pleins, mais avec une ambiance qui surpasse la Ligue 1.
Parce que pour un niveau qui est, je trouvais ça très bien.
Et le niveau du championnat mexicain, à mon sens, n'a pas vraiment beaucoup de choses à envier au niveau du championnat de France.
On est d'accord, Jonathan, mais tu t'éloignes un petit
première
peu.
Première chose.
Tu t'éloignes un peu quand tu vas au Mexique.
Évidemment.
Mais
Gignac a fait l'Euro,
c'est une destination pour les vacances de Laurent Blanc que
alors,
le club.
Pour répondre à la question précisément, je pense qu'il y a un problème à 4 têtes. C'est la qualité de l'entraîneur de Laurent Blanc, qui est un bon entraîneur. On l'a vu, quand il a joué, il a entraîné Bordeaux, ça jouait bien, ça jouait même magnifiquement, il a gagné le titre, et avec une équipe qui était peut-être pas favorite. Le deuxième problème, c'est la perception qu'il a lui-même de sa qualité d'entraîneur. Je pense qu'il se voit peut-être plus beau que ce qu'il n'est, plus fort que ce qu'il n'est. Le troisième problème, c'est la perception qu'ont les autres clubs de Laurent Blanc. Je pense qu'eux voient son vrai niveau. Et je pense aussi que son expérience au Paris Saint-Germain, même si il a pris un beau chèque, même s'il a empilé les titres sur la scène domestique, même s'il a coaché des grands joueurs, je pense que ça l'a desservi dans son image. Je pense que même s'il a gagné tous ces titres-là, l'image qu'on va garder de Laurent Blanc, c'est l'image d'un entraîneur peut-être un petit peu trop timide en termes de personnalité pour arriver à gérer un gros vestiaire.
Ça, justement, c'est la perception que vous avez de l'extérieur. Moi, pour avoir côtoyé un petit peu le coach Laurent Blanc quand il était au Paris Saint-Germain, je te jure qu'il a une autorité absolue sur tous les joueurs qu'il avait, de Ibra à qui que ce soit. Après, Ibra, c'est pertinemment, c'est une tenue pensante du vestiaire. Mais quand le coach disait quelque chose, en général, Ibra est toujours dans son sens. Il ne le contredisait jamais.
Il a eu quand même...
En tout cas, en public, en tout cas.
En fait, bien sûr que je te crois, Samy, mais je pense que dans la perception qu'on a de lui à l'extérieur, il y a quand même eu des petites casseroles qui ont laissé une trace, je pense. Aurier, je pense au 3-5-2 face à Manchester City.
Il y a peut-être ça, et il y a peut-être autre chose aussi. Il y a une image, qui est peut-être une fausse image, Samy, tu vas nous en parler, d'un entraîneur qui travaille pas beaucoup et qui s'appuie beaucoup sur Jean-Louis Gasset, en fait. Et c'est vrai que ça revient
c'est
souvent.
Pour ça,
c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs sur la PRM.
Il a pas
mis
parce que Gasset,
on nous parle de Jean-Louis Gasset qui n'est pas disponible.
Mais voilà, c'est
et
ça.
Donc, Laurent Blanc. Parce que Jean-Louis Gasset faisait un gros travail auprès de Laurent Blanc. Et c'est peut-être seulement une image. C'est peut-être complètement faux.
Jean-Louis Gasset faisait le travail que n'importe quel adjoint fait pour son entraîneur.
Un peu plus, Samy.
Après, non, c'est pas question d'un peu plus. Ce que vous comprenez pas, c'est que Jean-Louis avait une partie, déjà, sur Jean-Louis, au niveau du groupe qu'il quand il manage un groupe avec Lolo, c'est une forte personnalité. Il est proche de tous ses joueurs. C'est peut-être, il est considéré carrément comme un joueur. Quand ça va pas, il est toujours là pour réconforter. C'est un appui monstre. Lolo, c'est quelqu'un de plus les effacer. Mais c'est toujours lui.
C'est plus un type manager, en fait.
C'est un manager. Mais comment vous voulez expliquer à Zlatan ou à David Beckham ou à ne serait-ce qu'à le joueur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, il va pas leur apprendre à faire des passes, à faire un contrôle? Il peut pas, c'est pas son but. C'est tous des joueurs de haut niveau. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va prendre soin de ses pouliches. Est-ce que tout se passe bien dans leur vie? Est-ce que lui va bien? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que t'es en forme pour le match qui nous attend dimanche parce qu'il est important? Dans la motivation. C'est de la motivation. C'est comme ça.
Et tu alors, penses pas qu'il a montré quand même des limites au PSG?
Il a pas montré des limites. Il a eu affaire à un groupe où aucun entraîneur français n'aurait pu le gérer comme lui l'a géré ce cas.
Non mais je te parle en Ligue des Champions.
Après tu parles du choix tactique. Il fait un choix tactique qui marche pas parce que au bout d'un moment il y a Mota qui se fait expulser contre
Manchester City. Voilà,
non, le 3-5-2 contre City.
Ouais, mais il y a qui se fait expulser. Il y a pas Mota ou je sais pas quoi qui revient au bout de 22 milliards de jeux.
Olivier est au 32-16 avec nous à 21h54 dans l'after. Salut Olivier.
Ouais, salut l'after, bonsoir.
Salut.
Alors, supporter bordelais, donc tu as connu les belles heures de Bordeaux avec Laurent Blanc sur le banc. T'as ton avis sur la question, pourquoi personne ne veut de Laurent Blanc?
Ben, parce que Laurent Blanc aujourd'hui traite d'image, je pense, d'un entraîneur qui gagne des titres nationaux, mais qui pour les gros présidents de clubs étrangers qui gagnent des champions, ne leur fera pas gagner des champions. Le quoi du Paris Saint-Germain contre le City International, je pense que ça lui fait très très mal. Il donne une image aussi d'un entraîneur qui est un peu enfermé. Alors peut-être de l'extérieur on a cette impression-là, mais je pense que c'est l'image qu'ont pas mal de Français de Laurent Blanc, qui a pas forcément une super autorité, un peu comme Deschamps. Il a pas un charisme qui déborde. Alors c'est vrai qu'il fait très bien jouer ses équipes. En 2009, il donne le titre à Bordeaux, c'est vraiment l'artisan. Mais quand j'ai l'impression aussi que quand il y a des joueurs dont la tête dépasse un peu dans l'effectif des forts caractères, on a l'impression qu'il est plus en mesure de les gérer non plus. L'équipe de France est l'exemple flagrant de 2012 avec Nasri, etc.
Elle a eu l'air pressée quand même, l'équipe de France quand même, non?
Il sortait quand même de Naïsna, l'équipe de France sortait de Naïsna.
Il passe derrière Naïsna, c'est pas facile pour lui, c'est vrai qu'il prend un groupe avec des joueurs à fort caractère et qui en plus qu'on dénoté à Naïsna. Mais à côté de ça, il traîne ses casseroles. J'ai l'impression qu'il les traîne et des gros clubs aujourd'hui ne voient pas en lui l'image d'un entraîneur qui peut leur faire gagner.
Moi, je suis plus d'accord avec toi sur ce principe-là, que les clubs étrangers ne le voient pas comme quelqu'un est capable d'aller les faire gagner la Ligue des Champions.
Un club comme Chelsea a pris Sarri, qui a fait des belles choses avec Naples. Non,
Sarri,
on est d'accord.
C'est différent, Sarri.
Il a pris Sarri alors que Laurent Blanc était quand même sur la shortlist a priori de Chelsea.
C'est un niveau qui est largement au-dessus, Sarri.
Il vit des trop gros clubs aujourd'hui.
Il y a aussi de ça.
Il attend vraiment le gros projet.
Peut-être
le gros
qu'il aurait pu avoir un projet assez intéressant.
À mon avis, les propositions.
Il fallait tout reconstruire. Même un club comme Séville pourrait être intéressant pour Laurent Blanc. Quelque chose
comme
ça.
Je pense que c'est plus dans ce calibre-là, dans le deuxième, troisième panier européen.
Alors, on a beaucoup parlé de Lyon.
Oui.
Ça aurait peut-être été aussi intéressant.
Je le vois pas revenir en France pour Paris Saint-Germain.
T'as tout dit, François, là. C'est vraiment, il faut qu'il vise le deuxième, troisième calibre européen. Et c'est peut-être difficile quand t'as eu dans tes mains une Formule 1 comme le Paris Saint-Germain de revoir tout ça un petit peu à la baisse. Par contre, Sarri quand même, si t'as le choix entre Sarri et Laurent Blanc, c'est quand même, je pense que 90% des gens prennent Sarri tous les jours, quoi.
Si je peux me permettre.
Mais
si
il est en activité, Olivier, il fait quelque chose de bien. Comment?
Pour permettre entre Laurent Blanc et Sarri, Sarri a très bien fait jouer le Napoli. D'ailleurs, depuis que je ne pense pas que Naples avec Ancelotti aura la même qualité de jeu. Mais pour autant, Laurent Blanc a toujours très bien fait ses équipes. Moi, je vais supporter Bordeaux depuis les années 80. Aimé Jacquet ne faisait pas jouer ses équipes comme Laurent Blanc.
Non, mais même à Paris jouait très bien.
J'ai constaté un truc chez les entraîneurs qui sont ultra cotés, qui se disputent les gros postes, Guardiola, Klopp, Sarri, peu importe leur skill, c'est qu'ils sont capables de générer au sein des clubs où ils passent et au sein de, bon, des supporters, de l'institution, des joueurs, une sorte de culte. Le mot, il est peut-être un peu fort quand on dit culte, mais une sorte de mouvement de pensée. Les gens adhèrent vraiment à enfin, oui, c'est le, ça crée un culte, j'ai l'impression. Tu vois, par exemple, Sarri, à Naples, les gens,
il n'y a pas de culte Laurent Blanc.
Ben, je pense qu'il a pas la personnalité nécessaire pour arriver à générer ça. Tu vois, par exemple, Jürgen Klopp, il a généré quelque chose autour de lui.
À côté de ça, c'est des entraîneurs qui sont expressifs, démonstratifs.
Alors, Sarri, qui n'y a pas qui est taiseux, qui a le même profil, on va dire, de personnalité que Laurent Blanc, a réussi à générer cette espèce de culte autour de lui.
C'est terminé. Olivier, merci beaucoup d'être passé dans l'after. Merci, à bientôt. Merci.
Salut.
Et on se retrouve dans un instant. Ne quittez pas, restez avec nous, branchés sur RMC ou sur BFM Sport. L'after qui revient à 22h et on parle des gardiens du Paris Saint-Germain, de la gestion de Tourelle, de la hiérarchie des gardiens du PSG. On vous attend pour réagir au 32-16 ou sur Twitter, le hashtag RMC Live ou encore l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite dans l'after.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.